Place Info.
Bonsoir à la une, 1600 migrants évacués et ensuite notre sondage au Doxa Dentsu Consulting sur la politique en matière d'immigration. Jean-Paul Delevoye recadré sur les retraites, l'enquête de l'Institut Montaigne sur le fait religieux en entreprise. C'est dans Les Informés avec Véronique Reil-Soult, présidente de Dentsu Consulting, avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, avec Olivier Perroux, journaliste politique au magazine Le Point, et avec Victor Poirier, directeur des publications à l'Institut Montaigne. Bonsoir à tous les quatre, nous sommes ensemble. Bonsoir. Jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. 1606 migrants répartis dans deux campements situés porte de la Chapelle à Paris, évacués ce matin à l'aube pour être répartis dans une quinzaine de gymnases. Écoutez ce qu'en a dit Xavier Emmanuelli, le président fondateur du SAMU Social International. Il était l'invité du 1850 France Info.
C'est une telle violence, si vous voulez. Et puis, est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'attendre que les gens soient regroupés, créent des liens dans l'incertitude de leur avenir et puis de les mettre dans des gymnases et après? Non, je suis très triste à cette idée-là. Ce qui se passe en Afrique, c'est 10 fois le phénomène qu'on voit sur l'Europe. Donc il faut le maîtriser, mais je crois qu'on n'a pas les concepts. On a juste peur, on se ratatine, on met des grilles, on met des murs, on met des barbelés. C'est pas comme ça qu'on va y arriver à maîtriser ou à comprendre. Et il nous manque les concepts fondateurs.
Nathalie Moret, violence, hein, dit Xavier Emmanuelli.
Oui, c'est vrai que effectivement, on ne va pas régler le problème en évacuant la porte de la Chapelle, ça tout le monde le sait. Et Xavier Emmanuelli a raison quand il dit que le problème, il n'est pas là, il n'est pas dans ce qui s'est passé aujourd'hui, et il est de beaucoup plus global, qu'on n'a pas les concepts. Ceci dit, oui, bah cette évacuation, c'était quand même la chose à faire, parce qu'il y avait quand même 1600 personnes qui vivaient dans des conditions absolument mais déplorables. Je ne sais pas si les gens qui vivent loin de Paris en ont conscience, mais aujourd'hui, on peut être que soulagé que les gens qui vivaient là-bas depuis des mois n'y soient plus ce soir.
Alors, le problème, Olivier Perroux, c'est qu'on déplace le problème.
On déplace le problème, alors pas forcément pour ces 1600 personnes, mais c'est que je peux vous tenir le pari que dans 3-4 semaines, ils vont revenir, d'autres personnes vont revenir, et puis des camps comme ça, il y en a d'autres ailleurs en France, il n'y en a pas qu'à Paris. Ce qui m'étonne vraiment, c'est le timing, le tempo politique de cette action. On a bien vu quand même que qui a pris la parole ce matin, c'était vraiment Didier Lallement, le préfet. Et la dernière fois qu'on l'avait vraiment entendu, c'était à l'époque des Gilets jaunes. Il est là pour régler les problèmes. Et aujourd'hui, on l'a utilisé, pourquoi ? Pour régler ce problème à la porte de la Chapelle et pour mettre en application ces fameuses mesures ont fait la une de l'actualité hier, pour montrer que le gouvernement, finalement, il est là aussi pour agir. Il n'est pas là que pour proposer un catalogue de mesures, d'ailleurs un peu compliqué ou avec des trous, et là il est vraiment là pour agir. J'ai envie de dire que le coup médiatique est un peu gros.
Alors on poursuit le tour de table. Tout d'abord les arguments ce matin de Christophe Castaner sur le fait que au fond un dispositif va être mis en place porte de la Chapelle.
Nous ferons cela avec méthode et nous veillerons à empêcher qu'il y ait des réinstallations sur le site.
Voilà, ça signifie que les forces de l'ordre vont rester sur place dans les jours et les semaines qui viennent pour éviter que ces personnes ne se réinstallent au même endroit.
Oui, et il faut aussi des aménagements physiques pour empêcher cela, en particulier sur le périphérique ou à proximité du périphérique. Je les ai demandés à la mairie de Paris, je pense que c'est important.
Le ministre de l'Intérieur avec Marc Fauvel et Renaud Delis sur France Info. Véronique Reil-Soult, le problème se déplace. Au fond, cela concerne Porte de la Chapelle, mais les camps seront peut-être reconstitués ailleurs.
Ben, c'est la principale question que se posent les Français. C'est d'abord comment en est-on arrivé là, et puis surtout comment sait-on et comment est-on garanti d'une forme de durabilité de la solution. Monsieur Castaner est plutôt salué dans ses propos ce matin. Globalement, les Français sont plutôt satisfaits de la décision, mais considèrent que ça manque un peu d'humanité. Et puis surtout, vous posiez la question, est-ce que quand on n'est pas à Paris, on le voit? Eh bien, les réseaux sociaux font qu'on a eu en direct les images, on les a partagées. Et donc, il y avait beaucoup de questions autour de, et finalement, où vont-ils aller? Comment est-ce que cela va être traité? Et donc, ce sujet de la durabilité est celle qui inquiète. Et il y avait pas mal de messages aussi cet après-midi sur les fameux équipements dont parlait Monsieur Castaner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va empêcher les uns et les autres de se réinstaller. Alors, il y avait moult propositions propositions sur quel type d'équipement, mais qui ne résout pas le fond du sujet et qui ne répond pas à la question principale qu'on pouvait lire, qui est comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'on a finalement, aux portes de Paris, des gens qui vivent dans des telles conditions et le phénomène n'étant pas nouveau,
quoi. Alors on se rappelle que la jungle de Calais, au fond, après sa, on va dire, sa disparition, eh bien les populations s'étaient retrouvées réparties sur tout le territoire localement. Victoire Poirier, Xavier Emmanuelli a raison de dire qu'au fond, il faudrait une autre approche de ces questions globales de migration.
Il a raison dans un sens, on voit un vrai court-termisme dans ces actions qui marquent, qui choquent.
Il faut traiter, mais c'est court-termiste.
Il faut traiter, on traite le problème, on ne traite pas forcément la cause aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux principes qui doivent guider ce type d'action, c'est la dignité et puis l'efficacité. Force est de constater aujourd'hui qu'on n'atteint ni l'un ni l'autre. On a des solutions qui sont temporaires, qui sont des images qui sont vraiment choquantes. Aujourd'hui, on peut être un petit peu triste de ce qui s'est passé ce matin, et je pense que ça ne résoudra pas le problème dans les mois et les années à venir.
Parce que le problème, c'est le long terme, c'est-à-dire traiter le problème à la source, c'est des données économiques, cela raconte ce qui se passe en Afrique et ailleurs dans les pays de départ.
C'est le long terme, c'est à l'échelle européenne qu'il faut penser ces sujets, pas uniquement à l'échelle française. Le règlement de Dublin qui a été beaucoup critiqué récemment, les campements qu'on a démantelés ce matin, c'est une conséquence de l'inefficacité de l'Union européenne sur ces sujets migratoires. Donc voilà, il manque vraiment cette vision long-termiste.
Et Nathalie Moret, il y aura régulièrement évidemment des démantèlements, et puis il y a le Brexit qui arrive, que fait-on des migrants qui sont bloqués à Calais aujourd'hui? Toutes ces questions-là sont sur la table.
Oui, et puis alors on voit que en ce qui concerne le Brexit, souvent ils prennent un autre chemin. Ils transitent aujourd'hui beaucoup par la Belgique, ce qui pose des problèmes. Ce que vous disiez, Olivier, on déplace le problème. S'il n'est pas Porte de la Chapelle et s'il n'est pas à Calais, il est à Bruges et ailleurs, donc on déplace le problème. Oui, il faut quand même savoir qu'il reste aujourd'hui des gens à Paris. Il reste un camp de 2000 personnes environ, à cheval entre vers Aubervilliers, je crois, entre la Seine-Saint-Denis et le nord de Paris. Donc on aurait tort de croire, parce qu'il y a 1600 personnes qui sont ce soir ailleurs que dans la rue, qui est pas à Paris aujourd'hui. Il y a encore 2000 personnes avec des familles et des enfants qui sont dans des campements pas humains.
Olivier Perrault.
Encore une fois, on déplace le problème, on le dit depuis tout à l'heure, parce que on sait très bien quel va être l'avenir administratif de ces gens. Sait très bien que les obligations de quitter le territoire français sont en majorité pas appliquées ou sont très difficiles à appliquer. Alors là, qu'est-ce qui va arriver à ces 1600 personnes? Voilà, c'était un... On a fait ça pour les images.
Certains sont accessibles au droit d'asile, quand même.
Allez. Et ça, ou certains sont...
20h et presque 11 minutes, rappel de l'info sur France Info, avec vous, Thomas Bénèche.
Des pesticides utilisés dans les cultures contre l'apparition de champignons montrés du doigt. Une étude publiée ce soir par des chercheurs parisiens de l'INSERM pointe leur dangerosité. Les SDHI, c'est leur nom, sont accusés de bloquer la respiration de cellules humaines, d'augmenter le risque de maladies neurologiques et d'être nocifs pour l'environnement. Aux assises des Bouches-du-Rhône, l'avocat général réclame 15 ans de réclusion criminelle contre Claude Chaussat. Ce repenti du Gand Corse de la Brise de Mer est jugé pour l'assassinat de Richard Casanova en 2008 à Porto Vecchio. Verdict attendu dans cette affaire demain soir. Deux policiers renvoyés en correctionnel pour des soupçons de violence lors de la mobilisation gilets jaunes du 1er mai dernier à Paris. L'un comparaîtra ce mois-ci, l'autre en décembre. Dans la capitale, sur 146 enquêtes closes et communiquées par l'IGPN à la justice parisienne, un tiers ont été classés sans suite. La Russie salue les paroles d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. L'Allemagne les regrette. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, le chef de l'État français a jugé l'organisation en état de mort cérébrale. Référence à l'intervention militaire unilatérale de la Turquie dans le nord de la Syrie le mois dernier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Venons-en aux mesures sur l'immigration prises par le gouvernement. 73% des Français ont une mauvaise opinion sur la politique actuellement menée en matière d'immigration. Selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, menée hier et aujourd'hui par Internet auprès d'un millier de personnes. Céline Brac, directrice générale d'Odoxa.
Quand on teste les différentes mesures, alors on les a pas toutes testées, mais en l'occurrence, les Français considèrent qu'elles vont dans le bon sens. C'est pas très étonnant parce que ça fait pas mal d'années que les Français sont plus en demande de fermeté que de générosité sur la politique migratoire. C'est un sujet de fort mécontentement structurel. C'est-à-dire que là, on voit que sur les mesures qu'on teste, elles sont largement approuvées, que les Français auraient bien aimé aussi qu'on durcisse les critères du regroupement familial. Hein. Mais quand on demande un jugement global, on a les trois quarts des Français qui considèrent que la politique actuellement menée en matière d'immigration, eh bien, ce n'est pas une bonne politique.
Alors, Véronique Redsoult, les Français, donc 73%, ont une mauvaise opinion, mais ils saluent quand même les dernières mesures.
Oui, il les salue plutôt...
Paradoxe quand même, non ? Un petit peu...
Non, disons qu'il considère que les mesures vont dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que les 73% oui. Ça juge plutôt depuis le début. Et aujourd'hui, ils disent, ben voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a trois chiffres qui sont assez forts.
Oui,
61% des Français approuvent les quotas d'immigration.
Donc 61 pour les quotas. Hein.
Voilà, ouais. Pour les quotas. Et principalement, quand on regarde les raisons pour lesquelles ils les apprécient, ces quotas, c'est que ce sont des mesures économiques et que beaucoup disent que ce sont des mesures de bon sens. Après, il y a 63% des Français qui sont favorables à un durcissement des conditions des dispositifs médicaux. Donc là encore, ça va dans le bon sens et c'est plutôt dans une logique pour eux de rationalisation des dépenses et, ouais. Et de, on va dire, de mesures concrètes. Et puis enfin, 66%, donc c'est quand même beaucoup, qui sont favorables à un durcissement des critères du système de regroupement familial, qui pour autant n'était pas réellement annoncé dans les mesures, mais on a vu que c'était dans les éléments qui étaient les plus interpellés, en particulier quand on regarde à droite et à gauche, on a les sympathisants de droite qui sont plutôt satisfaits, mais qui trouvent que ça ne va pas assez loin, et en particulier sur ce sujet, non pas le regroupement familial en soi, non pas de ceux qui sont déjà en France, mais le sujet des critères de ce recrutement. Mmh. Et puis à gauche, on voit que pour beaucoup, ce sont des mesures électoralistes. En tout cas, c'est ainsi qu'ils le vivent, et donc forcément, ils l'approuvent un peu moins.
Nathalie Moret, comment interpréter cette approbation majoritaire des Français sur les trois mesures édictées à l'instant par Véronique Redsoult ?
Moi, je renverserai votre question. Je dirais, voilà, parce que les Français pensent ça, le gouvernement et notamment Emmanuel Macron ont décidé de mettre d'axer leur politique et l'axe d'une partie de l'acte 2 du quinquennat sur ces questions régaliennes-là.
Vous voulez dire que l'exécutif savait que cela rencontrerait l'acceptation majoritaire des Français ?
Évidemment. Et puis, elle a raison, Céline Braque de Odoxa, quand elle dit qu'il y a une forte demande d'autorité dans la population française. Ça aussi, le président Macron le sait. Et c'est comme ça qu'il faut regarder les mesures qui ont été prises hier, alors même que le nombre de sans-papiers en France est relativement stable. C'est le nombre des gens qui veulent demander l'asile qui est en augmentation forte. En revanche, les sans-papiers, finalement, c'est plutôt stable. Et le regroupement familial dont vous parliez, Véronique, c'est infinitésimal. Le nombre, oui. ça correspond à rien du tout. En fait, il y a un dévoiement, une fraude au titre de séjour. C'est ça qui pose un problème dans la politique migratoire. Mais le regroupement familial, c'est en fait très 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 peu de gens.
Victor Poirier, nous évoquions en ouverture des informés cette évacuation de migrants et à l'instant nous détaillons notre enquête au Doxa Dentsu Consulting. Vous diriez aujourd'hui que l'opinion publique française est hostile au fond au fait de l'immigration ?
Je pense que, donc, comme ça a été dit par la représentante de Doxa, ce chiffre de 70% des Français, pardon, qui trouvent que ces propositions liées à l'immigration sont positives, et en même temps qui trouvent que le bilan d'Emmanuel Macron est négatif en matière d'immigration, il interpelle quand même, parce qu'on voit d'un côté une critique globale, de l'autre une approbation sur des mesures assez précises. Là encore, je reviendrai sur le timing politique de ces mesures. D'un côté, on a la grève du 5 décembre, la réforme des retraites, des sujets sociétaux qui crée une véritable crispation auprès de la société. Et de l'autre, on revient sur des sujets régaliens, peut-être ouais. moins risqués pour l'exécutif, et qui permettent de contrebalancer un désaccord populaire et puis des sujets sur lesquels on prend beaucoup moins de risques.
Allez-y, Véronique Redsoult, puis Olivier Pirou.
Sachant que ce sujet-là, de l'immigration, n'est pas un sujet prioritaire pour les Français. C'est-à-dire que, globalement, les deux vrais sujets sur lesquels ils attendent le gouvernement, c'est d'abord le pouvoir d'achat et la santé, qui est un sujet qui revient tout le temps, qui est une vraie préoccupation.
L'immigration arrive derrière. Hein.
Arrive en troisième. Donc ça veut dire que même si là les mesures sont bien vont plutôt dans le bon sens pour les Français, c'est pas ça qui fera forcément regagner des points sur un jugement de la politique globalement.
Parce que Olivier Pirou, il y a une part d'opportunisme politique.
Je sais pas si on peut dire que c'est de l'opportunisme politique ou du calcul politique. Évidemment, il y a toujours du calcul politique. Fondamentalement, l'acte 2 du quinquennat, c'est le grand retour du en même temps. Le en même temps, c'est Emmanuel Macron qui l'a inventé ce mot. C'est Emmanuel Macron, il veut que l'acte 2 du quinquennat soit régalien. Et quand vous interrogez les personnes à Matignon, on dit, attention, l'autre grand sujet, c'est l'écologie, pour 2022, pour l'élection présidentielle. Et on voit bien, si vous regardez les sondages de septembre, c'était la protection de l'environnement était parmi les préoccupations principales des Français. Et aujourd'hui, on inverse un peu, on parle d'autres sujets. Et évidemment, l'immigration est l'un des sujets aussi principaux, même si on peut rajouter la santé avec la protection de l'environnement. De fait, on voit bien qu'il y a un travail électoraliste de l'exécutif pour préparer 2022 sur ces deux jambes qui seront l'écologie et les questions régaliennes, à savoir l'immigration.
Nathalie Moret, vous diriez, pour prolonger ce qui est dit à l'instant, qu'au fond, quelque part, Emmanuel Macron a réussi à bizarrement installer ce sujet dont on avait dit encore récemment qu'il y avait quelque chose d'artificiel dans cette démarche.
Oui, il l'a installé, effectivement. En même temps, c'est pas trop difficile d'installer.
Parce qu'il n'était pas une priorité de cette rentrée.
C'est clair, mais c'est surtout que Emmanuel Macron, il a été élu, si on refait l'histoire très très brièvement, surtout par les gens de gauche, et il va être réélu par les gens de droite. Or, quelle est la problématique, s'il est réélu, mais la problématique préférée, j'allais dire, le thème favori de l'électorat de droite, c'est la sécurité, l'immigration, etc. Donc forcément, s'il s'installe sur ces thématiques-là, c'est dans l'optique de 2022. Effectivement, vous avez raison, Olivier, il faudra aussi qu'il y ait les problématiques écologiques pour garder une partie de l'électorat.
Si je peux rajouter un point sur votre analyse, en plus, l'acte 1 du quinquennat, puisqu'on parlait d'acte tout de suite, a été fondamentalement économique. Et il a réussi à endormir et à récupérer un électorat de droite centriste avec ses mesures économiques.
On a commencé avec l'économie d'entreprise et là on fait du sociétal.
Et là on est là pour vraiment tuer, si on peut le dire ainsi, la droite.
Donc une première partie sur l'économie et qui aboutit sur un sujet, une problématique, pouvoir d'achat. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Les deux jambes en question, elles sont compliquées. En plus, le sujet de la santé, on disait que c'est un vrai sujet de préoccupation pour les Français. Mmh. C'est leur premier sujet. Et celui-ci, il est ni à droite ni à gauche. Il est pleinement dans le « en même temps ». Et donc, il va falloir composer avec quelque chose
de... Et surtout que ça va être compliqué pendant ces deux ans de continuer à faire des réformes. Et là, je crois que les questions d'immigration, c'est des questions de plus long terme.
On va rester sur cette question de, au fond, cette césure du quinquennat et cette stratégie apparemment du gouvernement pour la deuxième partie de ces cinq années à l'Élysée. 20h20 sur France Info. Tout d'abord, un nouveau rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Nous ne laisserons pas tomber. Réaction ce soir de la ministre de la Transition écologique à l'abandon du projet Europa City dans le Val d'Oise. L'Élysée décide ce jeudi d'enterrer la construction de ce méga complexe doté entre autres de commerces qui devait voir le jour en 2027 et créer des milliers d'emplois. Le président de la République estime qu'il ne correspond plus aux aspirations de nos concitoyens. Les élus locaux sont vent debout. Verdict attendu demain soir dans le procès de Claude Chaussat, jugé devant les assises des Bouches-du-Rhône. L'avocat général requiert à son encontre à 15 ans de réclusion criminelle. Claude Chaussat, repenti du gang corse de la Brise de Mer, comparé pour l'assassinat de Richard Casanova en 2008 à Porto Vecchio. Saisie record hier matin par la police judiciaire de Lille, elle met la main dans un entrepôt de Roubaix sur 8000 pieds de cannabis. Deux personnes interpellées et placées en garde à vue dans cette affaire. Le défenseur Benjamin Mendy, l'attaquant Kylian Mbappé, le milieu de terrain N'Golo Kanté, tous font leur retour en équipe de France de football. Les Bleus qui vont disputer de nouveaux matchs de qualification à l'Euro 2020, le 14 novembre contre la Moldavie, le 17 contre l'Albanie.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, nous allons évoquer Europa City dont parlait à l'instant Thomas Benesch, mais encore un mot sur ces questions d'immigration. Les mesures qui ont été prises, annoncées par Emmanuel Macron, par le gouvernement, sont-elles nouvelles, notamment les quotas? Non, selon Rachida Dati, la candidate LR à Paris sur BFM TV ce matin.
L'objectif de cette réforme telle qu'elle est présentée, c'est soi-disant pour maîtriser les flux migratoires. Ça n'est pas le cas. Le sujet, il n'est pas... C'est-à-dire que tous les quotas économiques qui ont été instaurés dans les pays, vous savez ce que c'est l'objectif? C'est pas de maîtriser le nombre d'entrées. C'est de pouvoir sélectionner des profils. C'est pas le même objectif. En fait, on revient à l'immigration choisie qui existe et dont les procédures doivent être plus fluidifiées. C'est une réalité qui existe. C'est pas une nouveauté.
Un mot rapide là-dessus. Nathalie Moret n'a pas tort, l'ancienne garde des Sceaux. Elle avait travaillé sur ces dossiers de, vous savez, le Canada, les quotas. C'était dans les années 2000 quand elle collaborait avec Nicolas Sarkozy.
C'est vrai, elle n'a pas tort. C'est un thème ancien qui existait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et c'est surtout un thème, les quotas, qui a été très après, dans la campagne des primaires de la droite, parce que c'est une décision, enfin c'est une mesure qui était recommandée par tous les candidats de droite, de François Fillon à Alain Juppé.
Et ces sujets ont été remis au goût du jour. Immigration, climat, c'est vous qui le disiez avec justesse, hein, Olivier Perroux, à l'instant. Il y a comme un mouvement de balancier depuis cette rentrée dans la marche du gouvernement avec ces deux thématiques. Emmanuel Macron, qui a donc réuni son troisième conseil de défense écologique aujourd'hui, a enterré effectivement le projet Europa City dans le Val d'Oise. Vous diriez cadeau pour les écologistes, Véronique Reynsoul. Comment c'est accueilli d'ailleurs?
Mais alors très très bien. Mais alors vraiment très
bien. Tout le monde applaudit.
Je vais vous dire, je vous montrais tout à l'heure sur nos voilà les outils que l'on a. Il y a un outil que j'aime bien, enfin une technique que j'aime bien, c'est aller regarder quels sont les émojis que les gens utilisent. Oui. Et là, ce ne sont
c'est
que des
magique,
émojis.
Hein, votre outil est magique.
Oui, hein. L'outil facette au coeur, mais je ne sais pas s'il y a une caméra, mais pour vous montrer, ça parle tout
oui.
seul.
Pour ceux qui nous écoutent, voilà. Il y a un écran d'un ordinateur portable avec des émojis qui apparaissent.
Et en fait, ils sont tous positifs, c'est-à-dire on voit des personnages qui soufflent dans des serpentins, on voit des mains qui applaudissent. Enfin, bref, les gens sont extrêmement satisfaits. Et quand on regarde, en particulier, les locaux sont très satisfaits. Il y a évidemment énormément d'associations qui se sont mobilisées depuis des années. Donc, ils ont un sentiment d'une victoire incroyable. Et puis, effectivement, l'écologie est un sujet fort qui souvent s'oppose à l'économie. Et ce projet, visiblement, en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu dans l'opinion publique, était une opposition de l'économie et de la consommation face à l'écologie.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Europa City, je vais vous la faire très courte, hein, parc d'activités géant Val d'Oise au nord de Paris, en pleine nature, hein, 3 milliards d'euros d'investissement, 10 000 emplois étaient promis par Citrus, c'est la branche immobilière d'Auchan, et par le chinois Wanda. Victor Poirier, est-ce que c'est, au fond on est dans un cadeau selon vous fait par Emmanuel Macron aux écologistes à la gauche, ou bien cela va plus loin, cela raconte un peu le modèle de société que l'on a envie d'avoir pour demain?
Je pense que c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est un cadeau...
C'est un en même temps
parce que d'un côté, ça peut paraître comme un cadeau, de l'autre, c'est quand même une annonce qui va être assez difficile à porter auprès de populations, notamment dans les banlieues, qui peuvent prendre ce signal comme quelque chose d'assez négatif. Vous avez parlé des créations d'emplois qui vont être supprimées, des gares de métro, RER qui vont être... on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Donc, concrètement, ça fait partie de ces projets-là qui sont du coup mis complètement entre parenthèses. Donc je pense qu'il faut bien s'assurer, une fois que ce projet-là est annulé, qu'il y a un projet alternatif qui est proposé et qui ouvre de nouvelles perspectives au département.
C'est
et pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout.
Olivier Perroux, on peut parler de décroissance?
Je ne sais pas si on peut parler de décroissance, on peut parler de ça, mais on voit qu'il y a un changement de paradigme dans la réflexion d'Emmanuel Macron, mais globalement des forces politiques sur la question écologique. Avant, on nous disait l'argument d'excuse pour... poursuivre ce genre de projet d'artificialisation, c'était oui, mais ça va faire de l'emploi. Là, ça fait quand même deux projets assez massifs, le projet Montagne d'Or en Guyane, qui c'était 800 emplois, je crois, ou un peu moins. Visiblement, ça ne va pas se faire, donc c'est 800 emplois, d'ailleurs, dans des populations qui
ne seront pas créées.
Et là, c'est 10 000 emplois. Donc, on ne réfléchit plus en termes justement d'emploi, on essaye justement de réfléchir sur d'autres systèmes, et Emmanuel Macron l'a très bien précisé d'ailleurs, c'est de savoir comment on peut transformer, est-ce qu'on peut faire autre chose, c'est les mots qu'il a utilisés, est-ce qu'on peut faire autre chose sur son projet, et c'est ce qu'il essaye, je crois, de distiller dans la pensée de l'opinion publique.
Nathalie Moret, pardon d'être schématique, mais on fait mal à la gauche avec l'immigration, au fond, et on fait du bien à la gauche, enfin aux écologistes, on va dire plus précisément, avec la suppression d'Europa City.
Il n'y a pas que les écologistes qui étaient contre ce projet, hein, parce que même, y compris à droite, Valérie Pécresse, qui est donc la présidente de la région Île-de-France, avait quand même quelques réserves sur ce projet. Donc ça avait loin d'être l'unanimité. Et au-delà de ça, je pense aussi qu'on est dans un changement d'époque, on est dans un moment où on est en train de basculer, où on peut se demander si ces genres de hyper supermarchés hyper grands avec des parcs d'attractions, etc., si ça correspond vraiment au modèle du 21e siècle. Moi, je le vois dans les régions où nous sommes, où le groupe Ebra est, il y a une volonté d'authenticité, de structures beaucoup plus proches des territoires.
Et on ne bétonise plus la France.
Ça existe aussi en Île-de-France, qui est déjà une région hyper bétonnée. Alors, effectivement, vous avez raison, il va falloir qu'on cherche recherche.
Que disait Victor Poirier tout à l'heure, oui.
Oui, c'est ça. Quelles vont être les alternatives, notamment en termes d'emploi. Mais je pense qu'effectivement, ça ne m'étonne pas du tout ce que vous dites, Véronique, si tout le monde applaudit sur les réseaux sociaux.
Ah. Allez, on marque une pause sur France Info. Nous allons évoquer dans un instant la clause du grand-père. Vous savez de quoi il s'agit. Ça parle de retraite. Et nous reviendrons sur ce baromètre de l'Institut Montaigne sur le fait religieux en entreprise. On parle de météo, on revient sur l'info. Et on se retrouve dans une poignée de minutes pour les informer de France Info.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export. Un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la bagay. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés.
VIE. L'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659.
Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, le quart sud-ouest sera encore concerné par le passage de nombreuses averses s'accompagnant parfois d'orages et même de grésils, et ces conditions vont persister toute la journée au sud de la Garonne. Il va aussi neiger sur l'ouest des Pyrénées des 1100 mètres d'altitude avec de grandes quantités attendues en haute montagne. Sur le reste de la moitié ouest, quelques averses pourront aussi circuler en matinée alors que plus à l'est, les grisailles seront nombreuses et vont retarder les éclaircies et le soleil dominera du Roussillon à la Provence. Demain après-midi, des averses pourront se produire sur les côtes de la Manche, du centre-val de Loire à la Charente-Maritime et la Gironde, jusqu'au Languedoc, ainsi que sur le relief du Jura et des Alpes du Nord. Ailleurs, nuages et éclaircies se partageront le ciel, avec plus de soleil entre le Lyonnais et la Côte d'Azur. En Corse, sur l'ouest, les pluies seront localement soutenues, alors que soleil et éclaircies domineront sur l'est. Les températures maximales vont encore perdre quelques degrés, 6 degrés à Aurillac, 9 degrés à Lille, Rouen, Strasbourg et Tours, 10 degrés pour Paris et Besançon, 14 degrés à Marseille et jusqu'à 17 degrés à Bastia et à Nice.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Un an quasiment après le début du mouvement des Gilets jaunes, la police des polices enquête encore sur 72 cas de violence qui auraient été commis à Paris par les forces de l'ordre. Au total, plus de 200 enquêtes ont été lancées ces derniers mois. Une vingtaine ont entraîné l'ouverture d'une information judiciaire, mais une cinquantaine ont été classées sans suite. Benoît Barret, l'un des responsables du syndicat de policiers Alliance.
Peut-être que certains vont voir encore une nouvelle polémique en disant, voilà, on veut protéger les policiers. C'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit les protéger, les policiers. Et vous savez que la police nationale, on ne cesse de le dire, la police est la profession la plus surveillée de France. Le policier a d'abord la première surveillance de sa hiérarchie, déjà, parce qu'il y a une hiérarchie au sein de la police nationale. Mais le policier est également surveillé par le procureur de la République. Le policier est surveillé par le défenseur de droit. Les policiers est surveillé également par les juges. S'il y a 54 procédures de classement sans suite, c'est bien parce qu'il n'y a rien. Alors je vais vous dire, lorsqu'on parle de 12 classements pour auteur non identifié, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les personnes qui ont déposé plainte contre les policiers, ils ont raison de le faire? C'est ça la question. Et est-ce qu'ils avaient les éléments pour déposer plainte? Eh bien la réponse, vous l'avez, c'est non, parce qu'il y a eu 12 classements pour auteur non identifié.
Cela dit, deux policiers comparaîtront ces prochaines semaines en correctionnel pour avoir jeté des pavés et pour avoir donné des gifles aux manifestants. Selon le ministère de l'Intérieur, au cours de ce mouvement des Gilets jaunes, près de 2500 manifestants ont été blessés. Amnesty International, l'ONU et le Parlement européen ont tous trois dénoncé un usage excessif de la force et des arrestations abusives. 15 ans de prison requis aujourd'hui à l'encontre de Claude Chaussat, ancien membre de la bande dite de la Brise de Mer. Il est jugé depuis la semaine dernière devant les assises des Bouches-du-Rhône pour complicité d'assassinat, des faits datant de 2008. Depuis, Claude Chaussat a décidé de collaborer avec les forces de l'ordre et il se présente comme un repenti. Le verdict est attendu demain. L'économie, une nouvelle vague de privatisation a commencé aujourd'hui avec l'introduction en bourse de la Française des Jeux, prix de l'action entre 16,50 € et 19,90 €. Le gouvernement souhaite ainsi récupérer 1,5 milliard d'euros. L'argent doit servir à alimenter un fonds pour l'innovation. l'immigration. 15 millions d'euros de moins pour l'AME, l'aide médicale d'État réservée aux demandeurs d'asile, et un délai de carence de 3 mois imposé pour les soins qui ne seraient pas urgents. Ces dispositions ont été adoptées ce soir dans la douleur à l'Assemblée. 13 députés La République En Marche ont voté contre, 3 se sont abstenus, 69 se sont prononcés pour. À l'international, avec leur sac à dos d'écoliers, ils étaient des milliers à brandir des drapeaux libanais cet après-midi à Beyrouth et Tripoli, les deux principales villes du Liban. On rate nos cours pour vous donner une leçon, clamaient ces écoliers et ces étudiants. Le mouvement de contestation entre dans sa 4e semaine et parvient à rallier de nouvelles catégories sociales contre des dirigeants politiques accusés de corruption et d'incompétence dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un mot de football avec la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa, suite des phases de groupe. Rennes affronte les Roumains de Cluj en ce moment 0-0. Il reste 10 minutes à jouer. 20h33. Jean-François Killy les informés.
France Info, les informés. Jean-François Aquilé.
La deuxième partie des informés de France Info avec Véronique Reissoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Hébrin, Olivier Perroux, journaliste politique au magazine Le Point, et Victor Poirier, directeur des publications à l'Institut Montaigne. Jean-Paul Delevoye a-t-il été rappelé à l'ordre à propos de la réforme des retraites ? Le haut commissaire du gouvernement, dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, ce matin, avait jugé impossible la clause du grand-père, à savoir réserver le nouveau régime, le futur, aux seuls nouveaux entrants, car cela reviendrait, a-t-il dit, à créer un 43e régime, en plus des 42 existants actuellement. Emmanuel Macron avait laissé entendre le contraire il y a une dizaine de jours. Voici ce recadrage discret en douceur de la porte-parole de Sibeth Ndiaye. C'était à la sortie du Conseil des ministres.
Monsieur Delevoye a indiqué une préférence qui était la sienne pour qu'on puisse avoir une transition qui ne soit pas trop longue. Je vous le dis, tout est évidemment sur la table. Je vous rappelle que le président de la République avait lui-même exprimé une préférence sur l'allongement de la durée de cotisation versus la détermination d'un âge, le recul de l'âge de la retraite. Et en cela, il avait montré que tout était sur la table, tout était discutable. Cela reste toujours le cas et valable pour les semaines à venir.
Voilà, tout est sur la table, tout est discutable. Discutable, Nathalie Moret, en clair, Jean-Paul, on arrête de dire que c'est impossible, quoi, grosso modo.
Ouais, mais je pense qu'on peut pas dire ça à Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, c'est pas n'importe qui, hein. Sa carrière, elle est derrière lui. Il a 70 ans. C'est pas la première fois qu'il est ministre.
Oui, c'est du solide, quoi.
Voilà. Et c'est, voilà. La Macronie, voilà, il l'a vu venir, il la soutient, mais en même temps, c'est pas son truc. Son truc, il est là pour faire un job, pour faire en sorte qu'il y ait qu'il y ait plus 42 régimes de retraite. Il a pas du tout l'intention, il l'a dit dans ses termes ce matin dans Le Parisien, qui en est un 43e. Il dit aussi que, certes, il peut y avoir des assouplissements, qu'il n'est pas quand même monsieur rigide, mais en même temps, il dit qu'il n'est pas question qu'il y ait un timing politique lié au municipal ou à la fin du quinquennat qui dicte cette réforme. Il le dit quasiment en ces termes. Donc, clairement, ouais. Il pose le débat, et je pense qu'il a raison, parce que si jamais cette réforme ne se fait pas pour une raison ou pour une autre, l'image de réformateur du président de la République en prendra un sacré coup, et ça va être très difficile de retourner devant les électeurs en disant j'ai réformé la France ayant échoué sur cette réforme-là.
Olivier Perroux, il doit être agacé quand même, monsieur Delevoye, parce que bon, il connaît son métier, comme le disait à l'instant Nathalie Moret, puis chaque fois qu'il fait part d'un peu de fermeté, il se fait recadrer.
Mais moi, je trouve que c'est plutôt Jean-Paul Delevoye qui a recadré le gouvernement. Parce que depuis quelques semaines, depuis même environ un ou deux mois, on entend cette petite musique qui revient, qui est, on va peut-être faire des exceptions pour les avocats, les pompiers, les policiers. Finalement, qu'est-ce qu'il dit dans cette interview, Jean-Paul Delevoye ? Il dit ni plus ni moins que la promesse originelle sur cette réforme. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Fini les régimes d'exception, on tend vers un régime universel. Donc, finalement, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur c'est un personnage, la Macronie est en train d'apprendre à le découvrir aussi. Pour l'anecdote, l'usage veut que les interviews soient relues par Matignon avant publication. Et ben, je peux vous dire ce soir que cette interview n'a jamais été relue par Matignon, elle est passée comme ça.
Ce qui est plutôt agréable à entendre pour les journalistes que nous sommes. Victor Poirier.
Oui, bien sûr.
Victor Poirier.
Au fond, le gouvernement redoute cette journée, notamment cette journée du 5 décembre qui arrive, parce que là, en disant on laisse tout ouvert, on essaie d'apaiser un peu, de calmer les syndicats notamment.
Mais ce n'est que la conséquence d'un projet de réforme initié pendant la campagne présidentielle, déjà très flou à l'époque, un peu idyllique de réforme systémique, qui aujourd'hui se retourne contre le gouvernement. On se rend compte que ça ne résout pas tous les problèmes financiers, tous les problèmes de régimes spéciaux, et donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation dans laquelle on ne peut pas contenter tout le monde. On a expliqué au début que personne ne perdrait dans cette réforme, ce n'est pas vrai, et aujourd'hui, du coup, 5 décembre, énormément de peine de personnes dans la rue, et on n'a pas de réponse concrète à apporter concernant cette réforme systémique. Jean-Paul Delevoye a quand même travaillé plus d'un an sur sur le rapport qu'il a rendu. Chaque conclusion qu'il a apportée jusqu'ici a été ensuite contredite ou remise en question par le gouvernement. Ça pose question sur la méthode.
Véronique Reilsoult, vous, avec votre tablette magique, est-ce que vous avez la sensation que les Français comprennent ce qui se passe en ce moment? Un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé.
Non, c'est pas très clair. C'est pas non plus très clair quand on essaye d'expliquer ce système de points. La seule chose qu'ils ont compris, c'est que ça va être réformé. Ce qu'ils ont compris, c'est que ça va être une logique de points. Ce qu'ils cherchent perpétuellement quand on regarde sur les réseaux sociaux, les questions sont quelle est la valeur du point? C'est la question qui revient tout le temps, bien plus bizarrement que l'âge.
La valeur du point.
La valeur du point, c'est la question centrale, systématique. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est un sujet de conversation constant. Donc c'est pas le premier sujet, sauf quand il y a une actualité un peu plus forte, mais c'est un sujet de conversation constant. Et vous disiez que ça va être un marqueur important de la réforme. En fait, les Français s'attendent à ce que ce soit réformé, s'attendent à ce que ça pique un peu, mais ils aimeraient bien que ce soit un peu plus clair. Et les propos de M. Delevoye sont plutôt bien accueillis en disant c'est pas tant que ça
fasse
plaisir,
clairs.
Mais ils sont clairs. Donc quand c'est clair,
et s'il connaît la musique,
après,
comme le rappelait Olivier Perrault tout à
l'heure.
Il faut peut-être pas oublier que ça a mis plus de 10 ans en Suède pour être mis en place. Oui. Très peu de pays l'ont mis en place parce que c'est extrêmement complexe. On a laissé un an et demi pour cette réforme. C'est très peu aujourd'hui pour l'ampleur de ce qu'on cherche à atteindre.
Alors, puisque vous parlez de réforme, le chef de l'État a évoqué lors du Conseil ce matin l'hémistiche du quinquennat. Vous êtes allé voir ce que signifie l'hémistiche, j'imagine. Joli mot, ça désigne le milieu d'un vers en poésie. On avait appris ça quand on était gosse. En parlant d'un quinquennat, des promesses tenues, Nathalie Moret, c'est toujours cette volonté de revendiquer, moi je fais le job, je réforme la France. Quoi.
Et puis, pendant la première année de son quinquennat, il y avait une phrase qui disait tout le temps, il disait Emmanuel Macron, je fais ce que
c'est devenu un hashtag chez les députés même. Ce qu'on a dit.
On fait ce qu'on a dit, je fais ce pourquoi j'ai été élu.
Nicolas
etc.
Sarkozy disait la même chose, Olivier Perrault, il faut s'en souvenir quand même.
C'était pas un hashtag à l'époque.
C'est ça, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça prend de la puissance. Oui. Donc oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne peut pas, il peut pas reculer sur cette réforme, c'est impossible.
Allez, dans une poignée de secondes, nous allons évidemment sonder ce baromètre, le vôtre, Victor Poirier, de l'Institut Montaigne, du moins, sur le fait religieux en entreprise. Pour l'heure, rappel de l'info à 20h40 avec vous, Thomas Bénèche.
73% des Français ont une mauvaise opinion de la politique du gouvernement en matière d'immigration. 61% sont favorables aux quotas pour les travailleurs étrangers. Résultat ce soir de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Enquête menée à l'issue des toutes dernières annonces autour de la politique migratoire de la France. Invité du 18-50 France Info, le président fondateur du SAMU Social juge violente les évacuations de camps de migrants ce matin à Paris et Saint-Denis dans le 93. Plus de 1600 personnes concernées. Est-ce vraiment la bonne solution d'attendre que les gens soient regroupés? S'interroge sur France Info Xavier Emmanueli. 15 ans de réclusion criminelle, peine réclamée aujourd'hui aux Assises des Bouches-du-Rhône contre Claude Chaussat, un repenti du gang corse de la Brise de Mer. On le soupçonne d'assassinat en bande organisée après la mort en 2008 à Porto Vecchio de Richard Casanova. Deux ONG se pourvoient en cassation après l'annulation de la mise en examen du groupe Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier reste mis en examen en revanche pour financement du terrorisme. On le soupçonne d'avoir versé quelque 13 millions d'euros à des groupes djihadistes pour maintenir ses activités en Syrie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
prières, horaires aménagés, port de signes ostentatoires, l'Institut Montaigne-Victor Poirier publie, c'est chaque année, un baromètre du fait religieux en entreprise. On parle des entreprises privées.
Privées, exactement.
C'est la 7e édition en partenariat avec France Info, nous l'avons révélé ce matin. Fait qui va grandissant, je parle sous votre contrôle, 72% des managers en entreprise constatent une sorte de hausse des pratiques religieuses en entreprise. Vous êtes d'accord avec cette donnée? C'est la donnée principale, en fait.
C'est l'une des données principales. Je pense qu'il faut être un petit peu plus optimiste que ce chiffre. On a deux réalités qui s'opposent dans ce baromètre. D'un côté, on a 90% des cas qui se passent de mieux en mieux, des managers qui savent mieux gérer ces religieux.
C'est mieux géré
par les managers, c'est mieux géré par les salariés pratiquants aussi, qui savent beaucoup mieux ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Ça représente 9 cas sur 10. On a ensuite 10% des cas dans lesquels le fait religieux en entreprise pose problème, vient en atteinte à la bonne organisation du travail, et c'est là aujourd'hui que le bas blesse.
Alors pour poser ce débat, on va poursuivre avec vous, rassurez-vous, écoutez ce propos de Richard Malkin, l'avocat de la crèche Babylou. Vous vous en souvenez, nous sommes en octobre 2011, ça a déjà 8 ans cette affaire, après que la cour d'appel de Versailles a donné raison à la crèche en question face à la salariée voilée qui contestait son licenciement. On écoute maître Richard Malkin.
Toutes les entreprises de France, toutes les associations du secteur privé de France ont aujourd'hui un outil juridique pour leur permettre de réclamer l'application de la laïcité et de la neutralité religieuse en leur sein. Nous sommes ravis de cette victoire qui fera jurisprudence, qui étend le domaine d'application de la laïcité et qui va permettre d'empêcher l'immixtion du fait religieux dans les entreprises et dans les associations de ce pays. C'est une grande victoire pour la laïcité, mais c'est d'abord la victoire de Babylou.
Alors très intéressant ce document exhumé par Camille Laurent de France Info. Victoire Poirier, les temps ont changé. On avait l'impression à l'époque que ça y est, on a les outils, on sait répondre, on sait quoi faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que les choses se sont quand même un petit peu cristallisées dans les entreprises?
Ce qu'on a observé avec Yvan Honoré, donc, qui est le chercheur auteur de cette étude, c'est que effectivement, les salariés viennent de manière plus entière dans leurs entreprises. Donc le fait d'observer plus de faits religieux en entreprise aujourd'hui n'est pas nécessairement problématique. Ça veut simplement dire qu'on demande aux salariés plus de créativité, plus de personnalité, et que dans leur personnalité se retrouve leur religiosité. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. C'est simplement dans les quelques cas qu'on n'arrive pas à gérer, dans lesquels les managers se retrouvent un petit peu désemparés, que la situation pose problème.
Oui, Nathalie Moret, le débat récemment, et c'est pas fini, c'est focalisé sur la sphère publique. La loi de 1905, les lois successives, notamment celle de 2004. Là, nous sommes dans l'entreprise privée. Est-ce que vous avez la sensation que, quelque part, cela s'organise mieux dans cette sphère-là? Qu'il y a une plus grande tolérance, quelque part. On va revenir sur vous, Victor Poirier, là-dessus.
Oui, j'ai l'impression, parce que c'est le privé. Donc le privé, ça veut dire que c'est chaque entreprise à son niveau qui édicte des règles et qui, en fonction de la population, en fonction de ses salariés, en fonction de la zone d'activité, en fonction du secteur d'activité, tout ça est très mouvant. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, comme vous le disiez, Victor, que ça se passe plutôt bien. Nous, dans nos journaux, par exemple, c'est très, très rare quand on a accès à ce qui se passe au sein de l'entreprise. Quand tout ça se passe dans la sphère publique, on est tout de suite très au courant et ça devient une affaire dont on parle. Dans la sphère privée, et l'entreprise est une sphère privée, c'est quand même beaucoup plus difficile de savoir ce qui s'y passe.
Et Véronique Reilsoult, sur ces phénomènes du religieux, du fait religieux au travail, qu'est-ce qui est dit?
En fait, on constate que le mot qui est souvent le plus associé, c'est bon sens et c'est vivre ensemble. Et effectivement, dans 9 cas sur 10, globalement, ça se passe plutôt bien. C'est beaucoup dialogue et d'explication. Après, dans les entreprises privées, il y a aussi une réalité qui est que les directions des ressources humaines essayent d'accompagner les managers dans une réalité qui est, par moments, c'est compliqué d'avoir une discussion, de savoir jusqu'où on met les limites. Et donc, il y a une formation aujourd'hui dans des managers à ce sujet-là, qui était peut-être pas un sujet aussi sensible autrefois, mais voilà, on vous explique comment gérer, comment discuter. Vous avez aussi des tas de moyens aujourd'hui pour aider dans les entreprises, pour faire en sorte que les employés, les salariés soient à l'aise, donc vous avez des hotlines pour parler, vous pouvez dénoncer le mal-être au travail. Et ces sujets-là, quand on est un peu mal à l'aise, ben on peut être conseillé et guidé beaucoup plus simplement sans doute que quand on est dans la sphère publique.
Avant de revenir sur Victor Poirier, question Olivier Perroux, vous avez la sensation que le public devrait s'inspirer du privé ?
Fondamentalement, parce qu'on voit que quand l'État et finalement le politique n'est pas ou n'y s'immisce pas dans le règlement de la chose laïque, il n'y a pas vraiment de problème, parce que le chiffre le plus marquant finalement, c'est que dans 9 cas sur 10, les problèmes sont plutôt bien gérés, mais dès que c'est dans, on l'a bien vu avec l'affaire du voile des accompagnatrices scolaires, dès que l'idéologie politique s'immisce dedans, il y a un problème.
Alors justement, Victor Poirier, il fait bien de le signaler, Olivier Perroux, il reste 10% quand même de cas, c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a comme manifestation la plus notable, le refus de serrer la main ou travailler avec des femmes, c'est ça ?
Alors, dans les faits religieux qui vont
parce
à l'encontre...
Vous ne citez pas les religions, bizarrement. Vous prenez une sorte de point de vue un peu global.
Oui, parce que c'est vraiment pas le but de cette étude. On traite le fait religieux de manière globale, et donc dans le cas des ports...
Mais on est dans le sous-entendu ou pas ?
Pas du tout, parce que dans le cadre de ports de signes ostentatoires, ça peut être un voile, une kippa, un turban... on a tous les signes ostentatoires, et le but vraiment de cette étude, c'est de voir comment est-ce que l'entreprise gère au mieux la religiosité des personnes, pas spécialement d'avoir une religion ou une autre qui soit regardée de près.
Alors, si on prend le refus de travailler avec des femmes, par exemple, il y a des procédures disciplinaires ?
Alors, le refus de travailler avec les femmes, c'est vraiment un des faits religieux donc les plus problématiques. C'est un de ceux qui apparaît le moins aussi, puisqu'il faut quand même rappeler que dans les faits religieux qui apparaissent le plus, on a les demandes d'aménagement du temps de travail, on a la possibilité de prier pendant les pauses, qui sont vraiment des objets qui ne mettent pas en cause l'organisation du travail. Dans le cas de refus de serrer la main aux femmes ou encore de refus de travailler avec des personnes qui ne sont pas de la même religion, en théorie, l'entreprise doit prendre des mesures qui sont assez fortes. Ça fait partie des recommandations qu'on formule avec ce baromètre. C'est soutenir les managers de proximité lorsqu'ils voient ce type de comportement qui sont inacceptables et soutenir la fermeté des réponses. Et bien entendu, offrir aussi des formations aux dirigeants pour qu'ils puissent traiter de ces problèmes de manière apaisée.
Oui, c'est très concret, ça. Puisqu'on en est à la 7e vague, 7e édition du baromètre en question, est-ce qu'il y a une forme croissante de prosélytisme religieux au travail ?
Non, on peut pas dire ça. On voit vraiment une augmentation continue de l'observation du fait religieux en entreprise. Comme je disais, c'est pas nécessairement problématique. Et la plus grosse augmentation qu'on voit, c'est vraiment dans la bonne gestion de ces cas-là par les managers et par les salariés.
Oui, et vous êtes optimiste finalement ce soir. Je vous sens pas du tout stressé par votre propre étude. Vous avez l'air de nous dire qu'au fond, les choses se passent plutôt bien.
Les choses se passent très bien. Après, il faut pas nier l'évidence qui est une infime part des cas se passe de manière problématique, et c'est ces cas-là qu'on souhaite traiter à travers les recommandations qu'on formule. Maintenant, je pense que dans un discours un petit peu pessimiste qu'on peut entendre, il y a deux façons de lire ce baromètre. La première, c'est 1 cas sur 10 qui se passe mal. La deuxième, c'est 9 cas sur 10 qui se passe mieux. Je vais opter pour cette deuxième solution ce soir. Mais
Véronique Relsoult, vous qui êtes un pilier des informés de France Info, au vu des sujets que nous traitons, et ce soir notamment bien ce fait religieux en entreprise privée, ce 21e siècle est de plus en plus religieux, au fond.
Au fond, oui, ne serait-ce que pour un sujet, c'est que c'était une discussion qui avait peu pour rester sur le cadre de l'entreprise privée. C'était assez rare autrefois d'avoir des discussions sur la religion, parce que c'était quelque chose de l'ordre de l'intime. Et aujourd'hui, comme on vit dans un monde de l'extimité où on met son intimité en scène, et ben, votre religion fait partie de l'intimité. Et donc, c'est une réalité qui est dans l'entreprise et un peu partout. On parle beaucoup plus facilement de la religion. Alors après, de nouveau, quand on est sur la sphère publique et le politique s'en mêle, ça devient un autre sujet. Mais quand on est dans un cadre privé, oui, la religion fait aujourd'hui partie des sujets importants, souvent source de repères d'ailleurs pour les uns et les autres, quelle que soit la religion. Donc c'est assez, c'est un phénomène qu'on constate.
Et je vous invite à découvrir le détail de cette formidable enquête de l'Institut Montaigne. Allez, je plaide pour ma paroisse, notamment sur le site de franceinfo.fr. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Plus de 1600 migrants désormais logés dans une quinzaine de gymnases d'Île-de-France et autres centres d'accueil, tous évacués depuis ce matin de deux campements installés Porte de la Chapelle à Paris et à Saint-Denis dans le 93. Le ministre de l'Intérieur précise sur France Info avoir demandé à la mairie de la capitale des aménagements pour éviter l'apparition de nouveaux campements à Porte de la Chapelle. L'Assemblée nationale vote le nouveau délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile, délai au bout duquel ils pourront accéder à la couverture santé de base hors soins d'urgence.
Repenti du concours de la brise de mer, Claude Chaussa connaîtra demain soir la peine que lui inflige la justice. Jugé devant les assises des Bouches-du-Rhône, l'avocat général requiert aujourd'hui à son encontre 15 ans de réclusion criminelle. Claude Chaussa est poursuivi pour assassinat en bande organisée, celui de Richard Casanova en 2008 à Porto Vecchio. Deux policiers renvoyés en correctionnel, on les soupçonne de violence le 1er mai dernier à Paris lors d'une mobilisation gilet jaune. L'un comparaîtra dès ce mois-ci, l'autre en décembre. Enfin, en Ligue Europa de football, Rennes est éliminée. Les Bretons ont perdu 1-0 sur la pelouse des Roumains de Cluj.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Vous savez que la tradition de s'informer chaque soir est de s'arrêter sur la une des journaux, des magazines. Eh bien, on va prendre un peu plus de temps ce soir avec cette couverture du magazine Le Point. Et vous, Olivier Perroux, le magazine qui a fait sensation hein, depuis hier, avec à la une ces confidences et extraits de ce qu'ils ne veulent pas que je dise, publié par Plonce. Donc, on l'a bien compris, c'est le livre d'Alexandre, du moins signé Alexandre Benalla, avec le pari des révélations des secrets de l'Élysée. Je vous propose d'écouter d'abord ce qu'en a dit ce matin Gilles Legendre, qui préside le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il était l'invité de nos confrères d'Europe 1.
Alexandre Benalla a une manière d'utiliser la notoriété bizarrement acquise pour se transformer en analyste politique. Je ne suis pas sûr qu'il soit la meilleure personne pour écrire la chronique du quinquennat.
Oui, Nathalie Moret, Alexandre Benalla réagit à ses propos. Hein.
Oui, il a réagi sur Twitter, qui est quand même une de ses voies de communication préférées, et il a dit « Quand vous serez irréprochable, vous pourrez me donner des leçons, on se comprend, j'en suis sûr. Ah, » Si ça, c'est pas une menace voilée, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, ça signe quand même le personnage d'Alexandre Benalla, qui est quand même assez extraordinaire. C'est un vrai personnage de roman.
Olivier Perroux, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qui est révélé dans cet ouvrage?
Mais il faut jamais prendre pour argent comptant que ce soit Alexandre Benalla qui parle ou Emmanuel Macron. Il faut toujours douter de tout et c'est sain de douter. Néanmoins, ce qui me surprend dans la réaction de Gilles Legendre, c'est quand il dit que ce n'est pas la meilleure personne pour analyser le quinquennat. Pardon de le dire, mais Monsieur Benalla, c'est quand même un événement politique du quinquennat. Il a sa vérité à dire, et c'est ça le propos aussi de son livre, et c'est ça le propos de l'entretien qu'on a avec lui. C'est de dire, on m'a accusé de beaucoup de choses, mais finalement, on n'a jamais entendu parler du fond de l'affaire, et puis d'autres choses, de ce que j'ai vu, moi. C'est un témoin du quinquennat. Et on le fait parler comme n'importe quel autre témoin. C'est très intéressant ce qu'il a dit.
Il y a un peu tout dedans, apparemment, la garde à vue, enfin les gardes à vue, toutes les affaires, toutes les histoires que nous avons vues à la une, hein, que nous avons commentées largement dans toutes les émissions. Et il cite, alors je cite les bonnes feuilles du Point, hein, une charge contre ce qu'il appelle les hommes en costume gris qui peuplent l'Élysée, qui auraient eu sa peau. Il y a un petit côté règlement de compte, là. Hein.
Non, dans les mots utilisés, il y a évidemment un règlement de compte, mais je trouve que l'analyse est assez pertinente, parce que Emmanuel Macron a été élu, parmi les promesses sur lesquelles il a été élu, c'était aussi de nettoyer le corps préfectoral, enfin le corps administratif. Et on se rend compte qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal à finalement changer toute cette administration qui fait traîner les mesures, qui fait traîner les projets de loi. Et c'est ça qu'il dit au fond Alexandre Benalla, avec ses mots à lui, certes, mais que cette promesse présidentielle de changer, de bousculer toute l'administration, eh ben elle n'est pas tenue, et elle n'est pas tenue dans cette affaire, visiblement.
Véronique Reilsoult, il y a la photo aussi, hein, qui a beaucoup tourné sur Twitter. On voit, c'est une photo un peu de kung-fu, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Oui, avec une sorte de coup de pied sportif. Moi, je casse mon pantalon si je fais ça.
Une photo de pratique du sport de la savate, en français. Véronique Reilsoult, c'est un personnage qui passionne les Français ou il y a une forme de défiance?
C'est un personnage qui fascine, qui a passionné les Français. Pourquoi je dis au passé, c'est qu'en fait, voilà, il a été le symbole d'un moment, d'une bascule. Il a alimenté des conversations. En plus, il y a eu des feuilletons. Donc, dès qu'on commençait à ne plus en parler, le sujet repartait. Donc, il y avait presque quelque chose de l'ordre du cinématographique, puisque c'était comme une bonne série qu'on suivait. Maintenant, aujourd'hui, le personnage qui, à un moment donné, a même réussi à être très sympathique aux yeux des Français, on finissait par être étonné, on trouvait qu'il parlait bien, ses premières auditions avaient un peu renversé les choses. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, c'est plus un personnage sympathique, et dans ce que j'ai pu lire là, mais les gens n'ont pas encore lu son livre, donc on verra si le livre changera les choses, c'est devenu quelqu'un qui est plutôt rejeté, c'est quelqu'un qui est le symbole de quelque chose de pas très sympathique, et puis finalement, le fait qu'il parle encore énerve un peu, le fait qu'il ne soit pas condamné, il est presque devenu une espèce de symbole du négatif de la non-condamnation. Bon, de très sympathique, il est devenu un peu moins sympathique.
Alors, je ne sais pas s'il pourrait être un objet d'étude hein, pour l'Institut Montaigne, mais Victor Poirier, je ne vais pas vous embêter avec cette
personnage. Je pense que c'est pour le coup une des manifestations de la défiance que les Français peuvent avoir envers leur corps politique. Je n'ai pas encore lu ce livre, je le lirai avec curiosité. Mais
effectivement. Lisez Le Point d'abord.
Exactement.
Les bonnes pages.
Olivier Perroux, encore quelques mots sur Alexandre Benalla. Il y a un retournement d'image, selon vous. Après tout, c'est vrai que Véronique Creil-Soult le rappelait, c'était un garçon bien poli lors des premières auditions, notamment au Sénat. Puis son image s'est un petit peu retournée. Là, on a l'impression qu'il y a une forme de capital sympathie, après coup.
Il y a quelque
chose...
Je vous dis ça
au doigt mouillé.
Oui, non, mais il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Et il y a quelque chose qui m'a surpris aussi, finalement, pour en avoir discuté avec Saïd Maran, qui est l'auteur de l'article
du Point, oui.
Et voilà, exactement. Et qui me disait, pour en avoir discuté avec lui, que finalement, il est un peu partagé. Certes, Alexandre Benalla, c'est quelqu'un de fanfaron, qui est capable de faire ses photographies avec ce coup de pied. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur. Parce que quand il a quitté l'entretien avec Saïd Maran, il s'interroge très sérieusement, est-ce que vous pensez que mon livre vendra plus que celui de Valérie Trierweiler? Alors ça peut faire sourire en soi, mais c'est vrai que ça peut faire sourire, mais je pense qu'il est vraiment, il y a une forme de peur chez lui de descendre l'ascenseur social, qu'il est l'un des rares à avoir grimpé aussi haut finalement, au sommet de l'État, à l'Élysée.
Vous nous rappelez le titre donc de l'édition de cette semaine du magazine Le Point?
Alors c'est Benalla, le livre des secrets, la vie à l'Élysée, Macron, l'exfiltration, les coffres-forts aussi, ce fameux coffre-fort, il en reparle.
Allez, Nathalie Moret, à la une des journaux du groupe Ebra.
On fait un grand dossier sur le nombre de plus en plus croissant d'incendies domestiques.
Allez, et je vous rappelle donc le rapport de l'Institut Montaigne, ainsi que l'enquête Odoxa d'Ansu Consulting France Info Le Figaro. Tout cela à revisiter sur notre site franceinfo.fr. Pour ma part, je vous dis à demain pour une édition spéciale des Informés qui sera en direct de Berlin à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur. Merci à vous et bonne soirée.